Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
L'activisme de Greta Thunberg et le mariage de Jennifer Lawrence. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions. Un vendredi soir, ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où on parle de tout, de l'important, du futile, de mode, de politique, d'environnement, et oui, du mariage de Jennifer Lawrence. Habituellement, on en parle avec Pauline et Andrea autour d'un verre de blanc ou deux. Je vous propose là d'en parler avec une actrice, un chanteur, une écrivain. Je suis Marion Galli-Ramouno, chef de rubrique Culture Célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Alors aujourd'hui, j'accueille une actrice, que dis-je, une artiste, peintre, photographe, sculptrice, réalisatrice, la lumineuse Charlotte Lebon. Vous avez 33 ans, vous nous avez fait hurler de rire sur le plateau du Grand Journal, une époque où vous vous glissiez encore dans la peau de cette Miss Météo folle, dingue et sans loi. Vous auriez pu vous installer dans cet humour qui vous allait si bien. Eh bien non. Vous avez pris de nouveaux virages. Vous dessinez Donald Trump avec des seins à la place des yeux. Vous photographiez la brume. Vous êtes la voix d'un documentaire sur l'infernale domination humaine sur la planète Anthropocène. Et si en réalité, on ne vous connaissait pas vraiment ? Bonjour Charlotte Lebon.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast La Revue.
Merci beaucoup, La Revue.
Peu de personnes me demandent si je vais bien. C'est plainte Meghan Markle dans une interview à une chaîne britannique, au bord des larmes. Donc j'ai envie de vous demander comment allez-vous, Charlotte Lebon ?
Ah ben moi, ça va très bien en ce moment. Ça va très très bien.
Je me sens totalement dépassée. C'est ce qu'a dit Charlize Theron dans une interview évoquant son quotidien entre enfants et tournage. Qu'est-ce qui vous dépasse, vous ?
Le manque de bienveillance et l'injustice, je pense que c'est ce qui me dépasse. C'est ce qui me dépasse et ce qui me dépassera sans doute jusqu'à la fin de mes jours.
Dans une enquête sur les méthodes plus ou moins douteuses des tabloïds anglais, on s'est attaché à connaître les limites de ce genre de journaux, les limites financières et morales. Quel est votre rapport à la presse People, vous ?
Je la hais. Je la déteste. Et en même temps, j'avoue que je suis la première à prendre les trucs américains et parfois les feuilleter et trouver ça juger les journalistes qui le font. Mais non, mais je trouve ça terrible en fait, parce que du moment qu'on fait un métier dit public, alors qu'à la base on est seulement que des artistes qui souhaitent s'exprimer à travers soit de la performance quand on est acteur, en tout cas, on est des artistes qui souhaitent s'exprimer à travers la performance. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être exposé publiquement, tout le temps, à tout le monde, ainsi que notre vie intime, en fait. Ce qu'on partage à l'écran, ce n'est pas notre vie intime, c'est la vie de notre personnage. Et en fait, je trouve ça absurde, parce que c'est le mode de pensée des journalistes de la presse People, c'est « Ah, vous faites un métier public, c'est le lot des gens qui font un métier public, mais allez vous faire foutre, en fait. » Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je sais aussi que j'ai été jugée par certains, par justement la presse People, quand je contestais justement tout ce qui est, parce que j'en ai eu, des articles qui sortaient dans la presse. Et en fait, en cours, on me disait « Non, mais de toute façon, on se voyait bien qu'elle était un peu fofolle et qu'elle s'en foutait et qu'elle était un peu, genre, voire grivoise, entre guillemets, dans ses chroniques du Grand Journal. » Je dis « Mais en fait, mais vous êtes complètement bête !» C'est quoi, en fait? Donc, tous les mecs qui jouent Hitler dans les films, en fait, on devrait lui jeter des pierres quand il se balade dans la rue, quand il est chez lui et qu'il va acheter ses courses, faire ses courses, en fait. Ça ne fait aucun sens. Donc, c'est de ne pas savoir C'est vraiment, vraiment pour moi, c'est de ne pas savoir respecter l'intégrité des êtres humains, hein, tout simplement, parce qu'on soit acteur ou bibliothécaire, c'est-à-dire on a tous besoin d'un respect de notre intimité. Voilà.
Vous êtes du genre à attaquer, du coup, quand ça vous arrive ?
Systématiquement. Systématiquement. Même si c'est des articles flatteurs, hein, je pense qu'à un moment donné, je sais pas, j'avais une photo où j'étais en maillot de bain et je me baissais et on faisait des commentaires flatteurs sur mon derrière. C'est hors de question, quoi. Je ne laisserai jamais, jamais ça passer. Jamais, jamais.
Depuis le début de l'affaire Weinstein, le monde du cinéma a brisé le silence sur le harcèlement et l'agression sexuelle, puis le monde de la mode, notamment, et d'autres. Vous faites, ou vous avez fait partie de ces deux mondes, en tout cas. Quel est votre point de vue sur tout ce MeToo planétaire, et peut-être à l'égard de votre propre expérience ?
Alors, ça, c'est un mouvement qui était nécessaire parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était extrêmement tabou, en fait. Donc, on a révélé un tabou. Donc, je pense qu'à chaque fois que ça s'est fait, c'est bénéfique et c'est extrêmement positif. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, à part que ce que je trouve merveilleux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui, beaucoup d'hommes, hein, notamment, parce que ça vient surtout de la part des hommes. Hein. Je pense qu'il y a eu quelques femmes hein, aussi, mais ça vient surtout de la part des hommes qui vont maintenant se tenir autrement sur les plateaux dû à ce mouvement. Et je trouve ça super. Je trouve ça super. Et évidemment, c'était nécessaire et c'était bon. Et de toute façon, dès qu'il y a une évolution quelque part, c'est positif, quoi. Donc, qu'il y ait une évolution des consciences à ce niveau-là, c'est formidable et qui a eu ces femmes très très courageuses qui sont allées au devant de la scène pour pouvoir commencer cette révolution et ce mouvement, c'est extrêmement admirable. Donc j'espère juste que ça va durer sur le temps aussi, surtout. C'est pas quelque chose qui va s'essouffler. J'espère que, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense qu'il faut juste qu'on reste intègre à travers ce mouvement-là. Il ne faut pas qu'on l'utilise, en fait. Il faut que c'est un mouvement qui reste sincère et intègre. Et c'est ça, parfois, le danger de ce type de mouvement. C'est que même parfois, dans un souci de... parce qu'on veut en faire partie, des fois, ça peut chavirer de l'autre côté. Et là, on peut créer des injustices qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont été...
Malmenés.
Ouais, malmenés là-dedans aussi. Il y a énormément de femmes qui sont victimes. Hein, attention, hein. C'est d'abord les femmes. C'est les femmes victimes d'abord qui ont porté ce mouvement et qui l'ont créé. Mais je crois aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de ça. Après, c'est hyper tabou, malheureusement, de parler de ça. On dirait qu'on n'a pas le droit. Mais encore une fois, moi, dans un souci d'égalité, j'ai envie d'en parler parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent de ça. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été inculpés à tort. Et ça, c'est terrible d'utiliser ce mouvement pour manipuler des personnes. Ça, c'est ça qui va sans doute ternir ce type de mouvement, c'est justement le manque d'intégrité. Donc il faut que ce soit un mouvement qui reste sincère et intègre, et c'est ce que je souhaite le plus. Voilà.
Christina Koch et Jessica Meir, astronautes à la NASA, ont marqué l'histoire en effectuant ce 18 octobre la première sortie 100% féminine dans l'espace.
Yes, oui, c'est bon ça.
Qu'est-ce que vous auriez aimé être la première femme à faire ?
Bah, il n'y a jamais aucune femme qui a marché sur la Lune encore. Hein. J'aimerais bien ça. La première femme à marcher sur la Lune. Après, ça demanderait quand même de changer vraiment mon mode de vie drastiquement, quoi. À partir de maintenant, de cette seconde. À la fin de cette interview, voilà, je m'en vais à Houston et je m'entraîne pour les 20 prochaines années de ma vie. Mais vous savez, moi, je pense que j'ai eu une chance vraiment inouïe dans mon éducation. C'est-à-dire que ma mère ne m'a jamais incitée à penser en termes de genre. Elle m'a jamais incitée à penser que j'étais limitée parce que j'étais une femme. c'était pour vraiment j'étais élevée dans une espèce de pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi c'est une évidence en fait, c'est même pas quelque chose qu'on devrait contester, même et je trouve ça complètement dingue qu'on doive encore en parler aujourd'hui pour faire exister le sujet quoi. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc première femme, premier homme, on dirait que pour moi c'est juste l'être humain en fait. Après c'est vrai que malheureusement je pense que s'il y a autant d'hommes qui ont fait les premiers pas sur quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas donné assez d'importance aux femmes à travers le temps, et ça c'est tragique et c'est complètement absurde et même idiot, mais ça c'est le résultat d'un conditionnement dont on est tous sujets et qui demande à être questionné, parce qu'en fait quand on essaie de le comprendre, ben on se rend compte qu'il ne fait aucun sens.
Jeanne Siaux Fachin, psychologue clinicienne et psychothérapeute, nous expliquait récemment pourquoi les femmes avaient plus de mal que les hommes à demander de l'aide. C'est quand la dernière fois que vous avez demandé de l'aide ?
J'ai pas du tout de difficulté à demander de l'aide, moi. Non, j'ai pas de difficulté du tout. Typiquement, une chose que j'ai réalisée en faisant mon premier court-métrage, et là, je me rends compte que ça va être le cas sur le long métrage, hein, forcément. Je pense que on va se dire, oh, bah, elle veut devenir réalisatrice, c'est parce qu'elle veut, voilà, s'incarner dans sa toute puissance féminine et qu'elle veut être le patron et blablabla. Mais pas du tout, en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Déjà, je veux juste être moi au service de ma propre vision, parce que voilà, j'en ai envie, et aussi parce que c'est un travail. J'adore le travail d'équipe, quoi. Et les films. C'est vraiment, vraiment ça. C'est une petite communauté qui travaille ensemble et qui s'entraide. Et j'adore demander de l'aide sur des films. J'adore ne pas savoir ce que je fais. J'adore demander l'opinion de certaines personnes. J'adore recevoir des critiques aussi. Donc, il faut arrêter de se dire non, parce qu'on est une femme, il faut pas demander de l'aide. Non, c'est pas vrai. On s'en fout, en fait. Il faut penser exactement de la même façon que... Il faut essayer de se conditionner en pensant comme si on n'était pas conditionné. Voilà. Je pense que c'est ça la clé.
Lors d'un discours aux Well Child Awards, le prince Harry a fondu en larmes à la simple évocation de son fils Archie.
Trop mignon.
Vous pleurez souvent, vous ?
Ouais. Hyper facilement. Comme, je pense que je ris aussi facilement que je pleure, en fait. Puis les larmes, elles peuvent être témoins de ma tristesse et de ma joie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive très, très vite et spontanément. Et voilà. Mais c'est encore une fois, je crois, dû à mon éducation, qui était que lorsque j'étais petite et que je pleurais, ma mère m'invitait à aller complètement au fond de ma tristesse et à complètement assumer ses pleurs. Elle disait, mais vas-y, il faut que tu sortes. Tu as envie de pleurer, tu pleures juste à temps que tu n'aies plus envie de pleurer. Quand j'étais en colère, même quand j'étais en colère contre elle, elle me disait, c'est bien d'être en colère, vas-y, sors ta colère au complet. Et ce qu'elle faisait très souvent, bah, d'ailleurs, c'est pas juste ma mère, hein, c'est ma mère et mon père, ils me mettaient dans ma chambre. Et je dévalisais ma chambre au complet, en fait. J'expulsais toute ma colère. Une fois que c'était terminé, je m'assoyais et je regardais le bordel que j'avais créé. Et ma mère rentrait, elle disait, c'est bon, t'as terminé, là? Je dis, oui. Ben maintenant, tu rentres ta chambre. Tu ranges ta chambre. Et donc, c'est tout ça, pour moi, sont des sentiments qui sont... la colère, la joie, la tristesse sont des sentiments, pour moi, qui sont tous sains, nécessaires... Et ouais, nécessaire à mon bon fonctionnement, en fait. Qui fait en sorte que... Je crois que c'est ce qui fait en sorte que je suis une personne à peu près équilibrée, entre guillemets. Quoi.
C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré ?
Il y a 4 jours, dans une scène que je devais faire. Voilà, où je devais pleurer très, très, très fort. Voilà.
Dans une enquête sur la rupture, des psychologues constataient qu'il y a encore 2 générations, on se mariait pour la vie. Mmh. Et en 2017, le Conseil économique, social et environnemental le rappelait pourtant. Aujourd'hui, un couple sur 3 se sépare en France. Mmh. Et l'idée du couple, elle résonne comment en vous ?
Ça aussi, c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que c'est, encore une fois, il est soumis à l'aliénation, je trouve, et au conditionnement, et à ce que la société veut qu'un couple soit. Moi, par exemple, je sais que j'ai un très, très grand besoin d'indépendance. Ça fait quelques années que je suis en couple, et je ne vis toujours pas avec mon partenaire. Et je sais que peut-être éventuellement il en sera question, mais je ne suis pas du tout pressée parce que je sais que j'ai besoin de mon espace. Et je sais que quand j'en parle à certaines personnes, pour eux, c'est pour t'as de la difficulté à t'engager. C'est pas ça du tout. Je suis complètement engagée dans cette relation. Je suis très amoureuse, mais j'ai besoin de savoir que j'ai mon espace et que si j'ai envie d'être seule, voilà, je peux juste rejoindre mon espace et je serai seule et je vis ma vie de façon. Voilà, comme il me semble, en fait. Donc, je pense que chacun a sa façon de vivre. Je pense pas qu'il y a une seule définition du couple. Je pense qu'il y a autant de définitions du couple qu'il y a d'êtres humains. Et il faut que chacun trouve sa façon, en fait, de vivre, sa relation de couple, quoi. Je pense pas que c'est parce qu'ils... Parce que je connais tellement de couples, moi, qui se sont séparés parce qu'ils ont emménagé ensemble ou qu'ils ont eu des enfants juste parce qu'ils se disaient que, c'est le temps, il faut faire ça, on est en couple, il faut faire ça. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il faut faut savoir identifier ses besoins et après savoir les appliquer dans sa vie et puis c'est tout, quoi.
Sans transition, dans une interview accordée à Madame Figaro, Laetitia Casta nous a dit « Je n'ai aucun problème à dire que j'ai 41 ans », se questionnant sur pourquoi une femme devrait être définie par rapport à son âge. Mmh. Comment vous sentez-vous dans vos 33 ans, vous ?
Oui.
Et par extension, quel est votre rapport au temps qui passe ?
Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je regarde ma gueule et ça me fait chier. Et il y a des jours où je me trouve beaucoup plus belle et épanouie que lorsque j'avais 20 ans, en fait. Et c'est drôle, j'en parlais récemment avec une copine. Et je lui disais, mais moi, c'est retourner dans ma vingtaine, mais c'est hors de question, quoi. Mais vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Après, le seul truc que je trouve un peu injuste, c'est que même ces questions existent, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive encore à poser des questions, à savoir quel est votre rapport à l'âge, au passage du temps. J'ai l'impression que ce n'est pas des questions qu'on pose aux hommes aussi nécessairement. Et j'ai l'impression que juste le fait que ces questions existent, en fait, on fait exister la problématique, quoi. Alors qu'en fait, je pense vraiment qu'on s'en fiche. Et moi, par exemple, 33 ans, j'ai jamais été aussi épanouie, j'ai jamais été aussi active dans toutes les sphères artistiques de ma vie. Et puis, j'ai jamais eu autant de choses à dire, quoi. Donc je pense que ça va aller que pour le mieux, parce que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je connais de choses sur moi-même. Et plus j'ai des choses à dire, et plus il y a des choses que j'ai envie de raconter. Donc peut-être qu'il faut juste arrêter de poser ces questions, en fait. Mais je suis pas en train de vous reprocher quoi que ce soit. Hein. Non, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, quoi. C'est-à-dire que je pense que le jour où on arrêtera de poser ces questions sur l'âge et les femmes, je trouve ça vraiment fascinant aussi dans les articles. Pourquoi on met tout le temps l'âge des gens dans les articles? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, que la personne, elle ait 40 ans ou 25 ou 30, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Je comprends pas. Mais c'est carrément systématique, quoi. Dans tous les articles, il y a l'âge des gens. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus courant dans les articles sur les femmes. Après, peut-être que c'est parce que je suis un peu parano, mais... mais moi, ça me saoule tout le temps quand on dit que mon âge... Je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Je comprends pas. Je comprends pas cette fascination pour l'âge. Vraiment. Et puis, c'est drôle, parce que récemment, je me suis retrouvée dans une position où on devait vendre une image qui représentait un projet dans lequel j'étais. Et il y a eu des retours sur les photos que le réalisateur souhaitait utiliser qui disaient « Attention, Charlotte a l'air plus vieille qu'elle a l'air dans la vie, quoi, sur la photo. » Et puis je me disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, plus vieille ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que j'ai l'air d'avoir, je sais pas moi, 38 ans sur la photo ? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir 38 ans ? Mais on s'en fiche, en fait. Pourquoi ? D'où vient le mal dans le fait de vieillir ? Je ne sais pas d'où ça vient, et c'est bête. C'est absurde et ça ne fait aucun sens parce que tout le monde, avec le temps, devient plus. Ça dépend quelle tangente de vie on décide de prendre. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais que je ne me suis jamais trouvée aussi épanouie. Ouais. Et je crois que la beauté, elle est dans l'épanouissement. Donc voilà.
Lycéenne, étudiante, artiste, employée dans la mode et d'ailleurs, elles se décident toutes, à travers des marches ou des actions, à s'engager face à l'urgence climatique et environnementale. Y a-t-il une Greta Thunberg qui sommeille en vous ?
Non, parce qu'elle, c'est vraiment c'est une activiste. Quoi. Moi, je suis pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis une activiste. Il faut une abnégation dingue pour devenir activiste, comme Greta. C'est pas mon cas. Moi, je reste malgré tout très égoïste, parce que je reste dans mon coin et tout ce que je veux, c'est créer et faire mes projets. Et donc, non, pas du tout. Mais à ma façon, je pense que à travers la création et à travers ma façon de créer, je me dois d'être pour être cohérente hein, avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique et l'état de la planète, c'est d'être responsable dans mes choix, c'est-à-dire que dans le choix des matériaux, dans le choix de ce que je recycle, ce que je recycle pas, dans mon mode de consommation aussi, c'est-à-dire de consommer de moins en moins, peut-être d'imposer aussi certaines règles sur les plateaux où je suis réalisatrice, d'imposer des règles, de faire des plateaux verts, quoi, qui sont éco-responsables. Ça, c'est des choses qui sont possibles et qui sont nécessaires, je crois. Et c'est carrément quelque chose que je souhaite faire. Mais de là à dire que je suis proche d'une Greta, pas du tout, quoi. Je l'admire énormément, mais c'est pas... Non.
J'admire Greta Thunberg, mais je l'ai mise en garde. Si tu agis par peur, tu seras forcément déçu par le résultat de ton action. Cela ne se passe jamais comme on veut. C'est Satish Kumar, l'activiste écologiste et l'entraîneur spirituel qui a dit ça, en répondant à la question des activistes qui, de manière générale, misent un peu tout sur la peur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je sais pas ce qu'il faut. C'est vraiment une vaste question, mais je pense que c'est vraiment à nous observer. C'est vraiment fascinant comment les humains réagissent, parce que on est aussi là en train de se battre à savoir quelles sont les causes aussi de l'état de notre planète, et on se crêpe le chignon à savoir oui mais c'est peut-être ça, oui mais c'est peut-être ça, mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut pas vraiment savoir, quand on sait pas comment le régler, on sait pas exactement comment faire, alors que c'est bête, quoi. C'est-à-dire que si on a un cancer, personne ne se dit tant que je ne connaîtrai pas la cause de mon cancer, je ne le soignerai pas, en fait. C'est complètement stupide, en fait. On devrait juste se focaliser sur les solutions, et ensuite on comprendra peut-être les causes, mais bon, c'est absurde d'essayer je sais pas, c'est un peu le fait la poule, quoi. Mais je crois que je sais pas ce qu'il faut. Je pense pas qu'il y a qu'un seul mode. C'est-à-dire, c'est pas en choquant avec la peur qu'on va faire changer les gens. Peut-être que certaines personnes vont changer avec la peur, mais peut-être que d'autres personnes vont changer à travers en leur montrant des images, tu vois, de beauté, par exemple comme le documentaire d'Anthropocène, qui est justement traité avec beaucoup beaucoup d'esthétisme. Et peut-être que c'est ça qui va choquer les gens. Donc je pense pas qu'il y a un seul mode de fonctionnement, en fait. Je pense pas qu'il y a une seule méthode pour faire changer les gens. Il faut juste qu'il y ait une prise de conscience globale, en fait. Et il faut qu'il y ait une révolution à tous les échelons. Et ça, c'est compliqué, quoi. Je sais pas pourquoi on a tant de mal à la faire. Je sais pas, j'ai pas la réponse.
Et notre dernière question. En parlant chose rare de sa vie privée, Marlène Schiappa a récemment déclaré qu'elle avait la chance d'avoir un mari si formidable. C'est quoi votre chance à vous ?
Ma chance à moi, c'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi. Point, en fait. C'est-à-dire, je jouis d'une liberté complètement dingue parce que j'ai la chance de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir prendre un avion, aller voir ma famille quand je le souhaite, parce que j'ai la chance de faire le métier qui m'anime et que j'aime, quoi. Et que j'ai en plus la chance de faire plein de métiers différents, en fait. Personne ne m'oblige à choisir, je ne souhaite pas choisir, et je peux faire tout ce que j'ai envie de faire artistiquement. Je peins, je dessine, je joue, j'écris, je réalise, je fais de la photo, et c'est que des choses qui m'animent et me nourrissent et font en sorte que je devienne une meilleure personne et une meilleure artiste tous les jours. Et j'ai cette chance d'être dans un pays qui me protège et qui en plus me permet de faire tous ces différents métiers. Et en plus, j'ai des amis formidables, et j'ai un copain formidable, j'ai une famille formidable. Voilà, je suis la personne la plus riche du monde, je crois.
Merci beaucoup, Charlotte Lebon, d'avoir été avec nous pour le podcast La Revue. Très bonne continuation pour tous vos projets, alors.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.